bienvenue à l'émission La Révolution sera féministe. On a eu quelques petits problèmes techniques qui maintenant sont en train de se résoudre. Alors aujourd'hui, j'ai deux invités, Martine et Annick de Femmes Solidaires, et qui sont venues pour nous présenter le mouvement Femmes Solidaires. Donc je vais bientôt leur laisser la parole puisque voilà, elles ont beaucoup de choses à dire et puis aussi des actions de solidarité, notamment en Éthiopie, avec l'histoire d'un documentaire que j'ai pu voir hier. Donc je vous laisse vous présenter parce que vous avez beaucoup de choses à dire sur Femmes Solidaires.
Bonjour, moi je m'appelle Annick. Bonjour à toutes et à tous. Et je vais vous présenter en quelques mots qu'est-ce que c'est que Femmes Solidaires. Alors Femmes Solidaires est la plus vieille association féministe de France, née à la Libération, qui s'appelait l'Union des Femmes Françaises. Depuis, du temps a passé, l'histoire s'est déroulée et nous appelons Femmes Solidaires. Alors nous sommes une association d'éducation populaire qui œuvre aux valeurs de laïcité, de mixité, d'égalité, et qui porte des revendications universalistes. Nous sommes aussi antiracistes, bien évidemment. Nous sommes un mouvement de paix. Hein, nous sommes très liés au mouvement de la paix. Ensuite, nous sommes aussi contre tous les intégrismes, en particulier religieux, quelle que soit la religion, parce que l'on sait bien que les religions ne sont pas particulièrement les amies des femmes. Il n'y a qu'à voir les dernières prises de position du pape concernant l'avortement en Andorre ou bien la position de l'Église et des évangélistes en Argentine, au Brésil et dans plein d'autres pays. Nous sommes aussi, c'est important, une association d'éducation populaire. Nous allons en particulier vers la jeunesse. Et cette année, nous avons eu auprès du ministère de l'Éducation nationale l'agrément pour voir intervenir en milieu scolaire. Et on y intervenait déjà, mais le fait qu'on ait cet agrément nous simplifie beaucoup la tâche. Et là, récemment, nous étions au lycée Saint-Charles.
Oui, alors justement, je suis venue avec toi pour assister à cette intervention et je ne pensais pas intervenir en fait, je pensais rester en retrait et puis ça m'a tellement emballée de me sentir utile que du coup je suis intervenue. Donc si vous voulez, je vous passe quelques extraits, si tout va bien techniquement j'espère, et puis après comme ça on peut se parler vous allez expliquer un peu comment se passent ces interventions. Moi, je pourrais dire aussi mon ressenti. Voilà, donc c'est juste un extrait, c'était un petit groupe de garçons et filles. Et voilà, donc là, à un moment, je vais passer un extrait où on parle du travail. C'est un extrait que j'ai choisi. Passer une heure d'intervention, ça aurait été trop long. Donc j'espère que ça va bien passer.
C'est peut-être légèrement plus compliqué que ça, parce que justement, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes métiers.
Ils se battent pour les femmes.
C'est un truc entre une femme et un homme,
qui
sont
par exemple deux secrétaires, et que la femme a sa compétence. Oui, d'accord, bien sûr, mais là, tu vois, quand même, il y a des stéréotypes sur les compétences. Est-ce qu'il y a des compétences qui sont masculines, et des compétences qui sont féminines? Donc ça, c'est le stéréotype même. Aux femmes, les métiers de l'enfance, etc. Les hommes, des métiers qui seront plus techniques. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans les filières scientifiques, il y a plus de personnes. Dans les filières littéraires, il y a plus de filles, par exemple. Dans les écoles d'infirmiers et d'infirmières, il y a plus de filles. Dans les écoles d'ingénieurs, il y a plus de garçons. Ces stéréotypes, ils sont porteurs de plein de choses qui font une société où il y a des inégalités.
Une société hiérarchisée, si je peux, voilà, si je peux ajouter quand même, puisque bon, c'est nouveau que les femmes accèdent à certains métiers qui leur étaient interdits, les métiers les plus valorisants au niveau de la société, les métiers qui donnent le pouvoir d'agir sur le monde, voilà.
Et là, tu sais, pour te répondre, il y a des femmes maçons, tu mets en avant la force, mais il n'y a pas que la force, il y a aussi le savoir-faire, et puis qui peut aussi contrebalancer le fait que peut-être il y a un peu moins de force, et encore. Voilà. Donc, c'est vrai que les femmes, maintenant, elles luttent, et que c'est pas possible qu'il y ait encore des métiers qui soient réservés qu'aux hommes. Ça, c'est une inégalité. Alors, je voulais vous dire quelque chose par rapport au salaire. Alors, dans le privé, hein, il y a les différences...
Bon, voilà, j'arrête peut-être là cette juste intervention. Donc, si vous voulez un peu expliquer ce que c'était que cette exposition, en fait.
Oui, alors voilà. Voilà comment nous intervenons dans les lycées. Nous avons Femmes Solidaires et Clara Magazine, notre magazine lié à notre association, plusieurs expositions qui concernent les inégalités. Dont une exposition qui est beaucoup choisie par les établissements, c'est l'exposition de 13 panneaux sur les stéréotypes de genre. Voilà. Alors, on pose en premier temps une question aux élèves sur ces deux mots, stéréotype et genre. Donc, le stéréotype, c'est une formule figée, un cliché, une croyance véhiculée qui empêche d'avancer et empêche l'émancipation. Ça, c'est ce dont nous, on est certains. Et ensuite, on demande aux élèves de nous expliquer ce que c'est que le genre. Et à partir de ces deux mots expliqués, nous commençons à faire visiter cette exposition panneau par panneau aux élèves. Et ensuite, les élèves rejoignent leur place. Et c'est là que les débats commencent à s'animer. Et on voit que les débats sont très riches, sont porteurs de questions. Et on arrive à déconstruire certains stéréotypes. Alors, c'est parfois difficile. Chaque jeune a son vécu. Mais on arrive à répondre aux questions. Les questions se soulèvent. Le professeur est en même temps vecteur de ses connaissances.
Oui, ben là, on a entendu voilà. Qu'il est intervenu. Hein.
Voilà, il intervient. Et souvent... À la fin de la séance, les élèves, ils n'ont plus envie de partir. Ils nous demandent si on va revenir. Et à part quelques élèves qui sont toujours retirés.
C'est ce qui s'est passé, je m'en rappelle que là, c'est ce qui s'est passé. Je ne peux pas passer. Bon, là, j'ai choisi juste... Ce n'est pas facile de choisir un extrait, mais je vais en repasser un autre tout à l'heure. En tout cas, je sais qu'il y a des... surtout les filles avaient remercié et avaient dit à quel point c'était important pour elles de pouvoir parler de ça. Ça m'a frappée.
Oui, et quelquefois, elles viennent, enfin, assez souvent maintenant, je trouve que c'est même plus important que les années passées. Peut-être que MeToo a marqué un peu les esprits, mais je trouve qu'elles demandent quand même beaucoup comment faire, des numéros de téléphone, etc. Mm-hmm. Pas forcément pour elles, ou elles ne l'expriment pas comme ça. Mm-hmm. Des fois, elles disent pour la copine. Mais c'est quand même significatif que ça rentre un peu dans les mentalités. Mm-hmm. Et moi, je voudrais...
Et elles nous posent aussi la question... Quelle est la différence entre un viol et une agression sexuelle ? C'est des choses qui, actuellement, sont réfléchies du côté des filles et des garçons. Et on est là pour répondre justement à la différence.
Je ne veux pas vous interrompre sur tout ce que vous avez à dire par rapport à ça, mais je voulais passer aussi un deuxième extrait où le thème abordé, là, c'était parce qu'à partir de ces stéréotypes et tout ça, toutes les questions, j'ai vu dans cette intervention de à peine une heure que on a parlé de tout. Et à un moment, j'ai un grand extrait sur la sexualité et les violences. Ouais. Alors, au début, ce qui m'a frappé de l'intervention, c'est qu'il y a un garçon qui est venu nous voir. Tu te rappelles, Annick, il était seul. Pas passer l'extrait, c'est un peu long, mais il est venu tout seul nous aborder. Et puis Annick, tu lui as dit oui, mais ça serait bien d'en parler au groupe entier. Et en fait, ce qu'il nous disait, c'était assez choquant, c'était plutôt sexiste ce qu'il disait. Bon, là, je vais pas passer l'extrait, et parce que justement, on va l'entendre aussi quand ils parlent ensemble. Mais ce qui m'a frappé déjà, c'est quand même son intérêt à vouloir parler de ce qu'il avait à dire. Voilà. Et aussi, ce qui m'a frappé, c'est que il y a que lui qui a parlé. Par contre, les autres garçon ne disait rien. Voilà, ça, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui arrive souvent. Les filles ont parlé plus facilement et aussi j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas trop mélangés. Voilà, sur ça.
Ça dépend des groupes un peu au niveau de la parole, mais en tout cas, ce qu'ils entendent, et même s'ils viennent dire des bêtises, et après ils entendent aussi les réponses, et peut-être que ça les fait réfléchir. C'est pour ça qu'on est là aussi.
Oui, ben justement, c'est ça qui m'a frappée. Là, je vais vous faire écouter cet extrait, parce que on entend, vous allez entendre, enfin j'espère qu'on entend techniquement bien ce qu'il dit, parce que malheureusement le son est ce qu'il est, la prise de son n'est pas excellente. Et on voit un moment qu'il évoque évolue. Voilà, donc je vais vous faire écouter. Donc. Donc là, c'est une fille qui parle, mais on n'entend pas très bien, malheureusement.
Ben, en fait, c'est la même idée. Là, voilà, la femme est un objet de désir.
Bon, on n'a pas bien entendu, mais la fille disait que souvent les jeunes filles se faisaient aborder et même agresser.
Alors, ils sont pas, non, sont, les hommes sont pas comme ça. Et non, non, mais c'est une idée qui. Les hommes, hein. Oui, bien sûr que non. Mais, il y a des associations d'hommes qui s'appellent Zéro Macho. Des associations qui travaillent avec les femmes, qui vont dans le sens des droits des femmes.
Voilà, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais là, le garçon dit « La façon dont les femmes s'habillent, c'est ça qui cause les viols et tout ça. » Donc, je vous mets la suite pour entendre la réaction du groupe.
Ah.
Alors, on entend la réaction des filles.
Je donne des chiffres globaux et après tu fais ça.
Je laisse un peu. Donc là, je me rappelle, il insiste en disant « Dites-moi que c'est pas vrai, c'est pourtant ça la cause. » Il est toujours sur cette idée que c'est la faute des filles, comment elles s'habillent. Et puis après, on sent quand même une évolution. Je ne sais pas si c'est trop long, je continue un peu l'extrait. Ça vous dérange pas ou vous voulez dire quelque chose?
Moi, j'allais dire, mais ouais. Justement, dans cette exposition, on a donc deux panneaux. Et le panneau s'appelle « Femme cadeau ».
Oui, et je me souviens que tu...
C'est juste
ouais.
Après,
oui, après ça.
Ce ouais. Commentaire de cette ouais. Affiche que ouais. Tout ça, c'est venu.
C'est venu, ouais.
Et
ouais,
moi,
ouais.
D'une
c'est
manière vrai. Générale...
C'était trop long de faire passer ton intervention, effectivement, parce que voilà, c'est long, même là, ça dure 10 minutes. Mais effectivement, c'est parti de cette affiche femme cadeau. Ouais.
Et d'une manière générale, moi, j'ai fait passer... Quand on vient avec cette exposition, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont à dire et beaucoup de choses qui sont dites... comme ce garçon-là, et puis les filles. Il y a une saine réaction quand même de la part des
oui,
filles
tout à
là-dessus.
Fait.
Et de là, de cette affiche, après, on peut glisser
il y a eu une grosse discussion.
Sur les violences,
voilà.
tout type de violences dans la société, et les viols, etc. Parce que ça aussi, c'est une question qui est vivement demandée, ou qui est quand même discutée
oui,
quand
oui.
On va au niveau des jeunes,
ouais, ouais,
chez
ouais.
Les jeunes.
Parce que, en tout cas, j'ai bien aimé aussi l'intervention vraiment de l'enseignant. Là. Je sais pas, le son n'était pas excellent. Mais,
Et moi, j'ai quelques chiffres à vous donner là-dessus, si on peut le faire maintenant, ou alors on lira après.
Ouais.
Ce sont les derniers chiffres
okay.
De 2017. Hein. En France, donc, par an, il y a 225 000 femmes qui subissent des violences sexistes ou sexuelles. Là-dessus, il y en a 3 sur 4 qui subissent ces violences de manière répétée. 9 sur 10 qui, en même temps, ont des atteintes psychologiques. Hein? Et là-dessus, il n'y a que 19% de dépôts de plaintes. Il y a 84 000 viols ou tentatives de viol en France. 70 000 mineurs qui subissent des mariages forcés. C'est terrible en France. Hein?
Ah, c'est en France, ça ?
Oui, c'est en France. Et 53 000... fillettes ou jeunes femmes qui subissent des mutilations sexuelles. Alors, elles ne les subissent pas forcément en France, où c'est bien sûr interdit, mais elles vont chez elles, elles vont en vacances et elles reviennent et elles ont subi les mutilations sexuelles. Et il faut dire aussi qu'il y a, même cette année, en 2018, l'année dernière, les chiffres étaient de 123 féminicides, c'est-à-dire assassinats de femmes parce qu'elles sont femmes, en France. Et là, cette année, 2018, n'est toujours pas terminée et nous en sommes environ, c'est difficile de dire à un près, nous en sommes à 132. Voilà, donc moi je crois que ce panneau dans notre exposition, c'est peut-être presque le plus important.
Et pour rebondir après sur ces nombres de victimes, bien justement, les stéréotypes, avec des chiffres récents, sont les suivants. Pour 27% des Françaises, Français, le fait que la victime portait une tenue sexy, mini-jupe, décolletée, cela atténue la responsabilité du violeur.
Oui, c'est ce que vient de dire le garçon. Donc 27%, voilà. c'est assez énorme, effectivement.
C'est énorme. Pour 15%, une victime est en partie responsable de son viol si elle a accepté de se rendre seule chez un inconnu. C'est-à-dire, elle peut rencontrer un garçon ou vice-versa dans un bar et puis aller écouter un morceau de musique. Mais c'est normal qu'elle se fasse violer puisqu'elle y est allée. Voilà, elle est responsable. 4 Françaises ou Français sur 10 estiment que si l'on défend vraiment autant que l'on peut, c'est-à-dire si on se défend, si on crie, on fait le plus souvent fuir le violeur. C'est tout à fait faux. Surtout que de crier et de se défendre, il y a la sidération, il y a des tas de, réactions psychologiques qui interdisent au cerveau d'avoir cette réaction. Un Français sur 4 considère que si l'on respecte certaines règles simples de précaution, on n'a quasiment aucun risque d'être victime de viol, alors qu'on peut être violé n'importe où, n'importe quand. Donc c'est vraiment les stéréotypes actuels qui sont encore dans les mentalités.
Et c'est pour ça que la journée, soit le 24 novembre, soit le 25 novembre, a revêt de plus en plus un caractère indispensable et qu'on doit être dans la rue ou mener des actions contre les violences qui sont faites aux femmes.
Ouais, moi aussi, j'avais des chiffres, malheureusement, je ne les trouve plus, mais qui personnellement m'ont effarée. Si je ne me trompe pas, que seulement 1% des viols dénoncés débouchent sur la condamnation du violeur.
Oui.
Moi, j'arrive pas à y croire, quoi. 1%, mais comment on peut expliquer ça? C'est gravissime au niveau de la justice. Il y a un énorme problème, là.
Parce que déjà, c'est à la victime à prouver. Donc voilà, déjà, si la victime a du mal à prouver, quand on demande à une enfant de 11 ans de prouver qu'elle était consentante, c'est l'histoire du consentement, c'est toutes ces choses-là qui font que...
J'ai halluciné, quoi. 1%, j'avais vraiment du mal à croire. Donc vous confirmez, c'est
oui,
le chiffre. Puisqu'on parle de ça, il y a quelque chose, je peux rebondir sur le fait que Amnesty International vient de sortir un rapport justement par rapport à la journée du 25 novembre. Là. Donc il a publié un rapport où il analyse la législation relative au viol dans 31 pays et conclut que seuls 8 de ces pays disposent d'une définition du viol qui est fondée sur le consentement, alors que la grande majorité des pays ne reconnaît le viol que lorsque les faits impliquent une violence physique, une menace ou une contrainte. Donc il n'y a pas d'histoire de consentement. Donc voilà, ça aussi c'est incroyable. La plupart des pays européens ne reconnaissent toujours pas légalement que les actes sexuels non consentis constituent un viol.
Et en plus, on demande aux femmes qui ont déjà... qui sont dans un état de sidération et dans un état très difficile et plus difficile encore aux petites filles de prouver, une petite fille de 11 ans, prouver qu'elle n'était pas consentante. Ben ça, c'est, moi je trouve que c'est le monde à l'envers, ça ne devrait pas exister.
Ouais, le problème de la minorité sexuelle là, qui n'a toujours pas été qui n'a toujours pas, enfin qui ne va toujours pas dans le bon sens en fait. Là aussi, j'ai lu un truc, je sais pas, enfin ça me paraît incroyable, mais il paraît que rien qu'en ce mois de novembre, une enfant de 13 ans a vu son violeur acquitté.
Oui.
Le gouvernement ayant renoncé à instaurer, comme promis, donc à l'âge minimum de consentement.
Bien sûr, oui.
Alors je suis sidérée. La victime, donc avait 13 ans, était atteinte d'un handicap cognitif, oui. Mais la justice n'a pas voulu trancher si elle était consentante. Voilà, mais moi, j'arrive pas, j'ai vraiment du mal à croire à ça. On est en France, à 13 ans, comment est-ce qu'on peut être consentant,
quoi. Ces violeurs, ça vient de se passer maintenant. Ces violeurs viennent d'être acquittés.
Ouais. Et il y a un autre cas, bon là, j'ai pas tout le truc, il y avait un autre cas de Julie, du même âge, elle aussi, récemment. Mais comment ça se fait qu'on en est encore là? En plus, c'est encore plus choquant, effectivement, qu'à 13 ans, on puisse, on soit obligé de se je sais pas, c'est évident pour moi, quoi, qu'il y a, à 13 ans, on peut pas... Et là, on ne peut pas être consentant, c'est encore plus choquant.
Après, après toutes les mobilisations qui ont suivi MeToo,
comment ça se fait que ça n'a pas suivi cette
Il y a un arrêté. Certain nombre de mesures qui avaient été proposées à notre secrétaire d'État aux droits des femmes, hein, puisque quand même les lois existent, elles sont imparfaites, mais il fallait justement avancer sur cette histoire de consentement. Il y avait un âge qui était l'âge de 15 ans, qui était proposé et qui faisait à peu près l'unanimité avec toutes les organisations féministes. Et puis, alors pourquoi, je ne sais pas, pour des lobbies, pour des pressions, pour je ne sais pas quoi, c'est difficilement explicable, eh bien, Marlène Schiappa a reculé. Donc il n'y a pas d'âge qui a été donné et qui est donné dans cette loi.
Mmh. Ouais, je trouve ça incroyable.
C'est aussi une question de vote aussi à l'Assemblée nationale, hein. Quand sont débattues des lois sur le droit des femmes, pour y avoir assisté personnellement, l'hémicycle est, on va dire, au tiers plein ou au trois quarts vide. Voilà.
Et puis, il n'y a qu'à se rappeler aussi les insanités, il y a quelques années, mais enfin, les insanités qu'avait entendues Simone Veil lorsqu'elle avait défendu la loi sur l'avortement, ou je ne sais pas, là, il y a quelques années, là, c'était l'année dernière. C'était une Barbara Pompili, bon, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais pendant qu'elle intervenait, il y en avait plusieurs députés et qui faisaient cote, 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 cote en permanence, des bruits de poule ou des bruits de coq pendant toute son intervention. Alors, quand on pense que nos élus, qui quand même, normalement, ont un petit peu plus réfléchi que la moyenne de la population, ben, c'est pas étonnant qu'on en soit encore là.
Bon, si vous permettez, moi, j'ai envie de finir l'extrait là, de l'intervention au lycée, parce que là, il y avait grosse discussion et je voulais qu'on entende, bon, malheureusement, le son est ce qu'il est, mais le débat continuait, vous allez voir. Et bon, le garçon, il évolue un petit peu à la fin, mais c'est pas évident. Et voilà, et on entend les filles aussi qui disent, enfin, qui ont vraiment envie de parler de ça, de la sexualité, des relations hommes-femmes, etc. Donc voilà, je vous passe un peu à la fin.
En plus, sans que j'en ai la certitude, parce que c'est un petit peu, mais il me semble que les relations sexuelles de notre différence, c'est un petit peu plus de ça.
C'est dans les pays où les femmes sont toutes couvertes, elles ne se font pas moins violées. Au contraire, c'est les pays les plus violents où les hommes sont, la sexualité est le plus tabou, où les hommes sont en ébullition. Voilà, c'est... Et la bienveillance, est-ce que ça te dit quelque chose, ces mots-là? Voilà. Voilà. Et pour le respect, c'est ça. Tu comprends? Le respect.
Bon, j'arrête juste un moment parce que c'est un peu long, mais en tout cas, on voit que ça parle parce que après ça, bon, là, je suis intervenue et ça continue parce que les filles, elles ont rebondi là, elles ont dit ouais, enfin, elles avaient encore plein de choses à dire. Je vais pas forcément passer tout
et
ça.
Je voudrais donc, par rapport à ça, j'ai entendu un mot important, respect. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on dit, et on dit qu'il faut, donc aller vers les jeunes et dès le plus petit âge. Dès l'école maternelle, hein, peut-être la crèche, mais c'est un peu tôt. Dès l'école maternelle, il faudrait inculquer à ces jeunes enfants le respect, entre les filles et les garçons, l'égalité entre les filles et les garçons. Dans une cour d'école, les petites filles ne doivent pas être dans un coin sans bouger. Les garçons courent partout. Tout le monde a le droit de le faire ce qu'il veut. Il n'y a pas du rose pour les filles, il n'y a pas du bleu pour les garçons. Il n'y a pas que des poupées pour les filles et que des voitures pour les garçons, et etc. Je veux dire, la petite fille, elle va mettre la table pendant que le garçon, il va aller courir dans la cour. Bon, tout ça, ces stéréotypes-là, il faut les battre. Dès le plus jeune âge, il faut absolument aller contre.
En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand même ils étaient assez demandeurs. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, enfin, ça, je me suis sentie utile parce que, enfin, je sais, bon, là, j'ai pas. Oui, il y en a plusieurs qui nous ont remerciés, quoi. Donc,
ah ben, tout le temps, c'est tout le temps comme ça. Hein.
Il y a un garçon qui m'a dit, Madame, je suis avec vous.
Ouais, ça fait vraiment.
Ça sortait de son cœur. Je suis avec vous. Mmh. Et puis plusieurs disent, vous allez revenir. Mmh. Ça veut dire qu'ils ont,
ils ont
envie d'en parler, ils ont été intéressés. Mmh. On a vraiment, moi aussi, je suis stupéfaite. Et je pense que MeToo est quand même à la base, quand même, d'avoir peut-être des liés sur les réseaux sociaux partout, des liés quand même un petit peu la conscience. Et je pense que maintenant, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir aller vers les jeunes, vers la jeunesse. Je pense que c'est par eux qu'on va arriver à déconstruire tout ça.
Et dans cette année, donc à l'été, nous avons fait notre campagne qui s'est appelée, c'est lié à tout ça bien sûr, Génération non sexiste. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi nous avons fait cette campagne ? Parce que nous avons voulu démonter, déconstruire les stéréotypes. Et nous avons donc sur les réseaux sociaux, nous avons acheté des cartes postales qu'on trouve en général dans les stations au bord de la mer ou l'hiver à la neige, où on voit les femmes en pose provocatrice, entre guillemets, très dénudées, et que ces cartes postales que l'on vend dans les stations, qui sont mises aux yeux des enfants, hein, et voilà, à la vue de tous et à l'achat de tous. Donc nous avons voulu dénoncer ces campagnes et ces cartes postales, pas parce que nous sommes prudes et parce que nous avons peur des hommes et nous n'avons pas les hommes, mais justement pour construire à l'égalité entre les filles et les garçons.
Et pour la petite histoire, cette campagne est passée sur les réseaux sociaux. Donc, on faisait apparaître les cartes postales qui nous avaient choquées, qui avaient été collectées par les amis ou les gens qui nous les envoyaient. Elles apparaissaient dans notre campagne. Eh bien, nous avons été bloqués plusieurs jours pour pornographie. Donc, elles sont dans les kiosques, à la vue de tous les enfants qui peuvent choisir une carte postale pour envoyer à leur mamie, leur papy ou leurs amis. Et c'était jugé comme de la pornographie sur les réseaux sociaux. Voilà.
Ah, d'accord. Moi, je vous proposerais bien juste une petite pause musicale qui irait bien en rapport avec le sujet. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson « Balance ton quoi » de Angèle. Vous connaissez ? Bon, alors, je vais me passer ça.
C'est bon. Voilà, puis tout à l'heure, je ne vous ai pas dit que nous sommes une association de solidarité internationale. Nous avons un réseau international qui s'appelle le réseau international laïque, où sont associés à nous des associations amies qui mènent les mêmes luttes dans un certain nombre de pays. Et nous avons une voix consultative à l'ONU. Et nous sommes aussi à l'intérieur du réseau qui s'appelle le Lobby européen des femmes.
L'association s'est engagée depuis 1989 dans la lutte contre l'excision en France tout d'abord, puis auprès de Gamissa à partir de 2005 en Éthiopie. Les deux combats, ici et là-bas, sont liés. Lorsque les droits des femmes progresse dans un endroit du monde, cela encourage les autres à poursuivre leur action pour la liberté, la dignité et l'égalité. Donc, en 1995, lors de la conférence internationale de Pékin sur la lutte contre les violences, Aïcha Dabalé de l'association Femmes Solidaires Aïcha Dabalé, une femme afar, a donc rencontré l'association Femmes Solidaires. Et là,
dans les rencontres, on s'est aperçu que 98% des fillettes à phare entre 6 et 8 ans étaient soumises à la pratique de l'excision, l'infibulation. Le taux de mortalité mourant, des femmes mourant en couche à cause de l'excision était très élevé. Déjà en 1995, il y a plus de 20 ans, l'association Carrera, aujourd'hui Gamissa, était engagée dans la lutte contre l'excision et l'infibulation. Parce que là-bas, les femmes, dont deux femmes précisément pionnières, essayaient de lutter contre cette pratique culturelle qui datait depuis des années ancestrales. En 2005, les mères dans ce combat depuis 10 ans ont fait appel à Femmes Solidaires pour un soutien. Une délégation de 5 femmes solidaires s'est rendue en Éthiopie. En 2008, un programme de marrainage se met en place. Ce programme engage les familles, d'une part, de respecter l'intégrité physique et morale de leur fillette en refusant de les mutiler et d'autre part, l'obligation de les scolariser. De 2008 à 2013, 95 petites filles sont marrainées par les comités Femmes Solidaires. Parallèlement, sur un terrain d'environ 1 hectare donné par le maire de Gawani, de cette région Afar, un refuge est constitué pour permettre, lors des constellations propices à l'excision, de protéger les fillettes. Parce que c'était par rapport aux constellations qu'était décidée par les hommes l'excision des fillettes. En 2013, lors d'une campagne de vaccination effectuée par les autorités régionales Afar, on recense sur 7 villages 850 petites filles qui ne sont plus excisées. C'est-à-dire qu'en 2013, l'excision sur toute cette région avait été éradiquée. Donc c'était une grande victoire. Mais depuis, ces fillettes sont devenues de jeunes filles. Donc Femmes Solidaires a donc toujours continué à aider ces femmes afar avec lesquelles nous avons un lien, un fort lien affectif et d'attachement. Donc nous avons donc continué à les aider. Maintenant, elles sont devenues des jeunes filles, elles font des études, elles veulent être infirmières, ingénieures, elles ont beaucoup d'ambition. Les exciseuses sont devenues accoucheuses, travailleuses, elles font de la couture, elles travaillent sur les terrains. Voilà. Un film documentaire, Kimbidale veut dire en français entière, c'est-à-dire non excisée, a été réalisé par l'intermédiaire de Femmes Solidaires. Et puis, nous continuons toujours à marrainer, mais d'une autre façon, puisque maintenant les petites filles n'ont plus besoin on n'a plus besoin de lutter contre l'excision, mais on a besoin maintenant de les aider à leur autonomie. Leur autonomie de femme. Seulement maintenant, nous sommes un petit peu pris à la gorge parce que les financements que nous recevions de fondations sont arrivés à échéance. Donc, on fait un appel de refinancement, c'est-à-dire qu'on redemande via les comités Femmes Solidaires à ce que les opérations marrainage continue à être effectuée et envoyée en pays afar, de façon à pouvoir continuer à scolariser ces jeunes filles et à les rendre jusqu'à l'autonomie. Et puis nous lançons sur un réseau internet Ulule. Voilà, Annick, si tu veux expliquer Ulule.
Oui, alors. Donc c'est une opération de crowdfunding, excusez mon anglais, mais c'est une opération où on récolte des fonds par l'intermédiaire des réseaux sociaux sur une plateforme qui est quand même assez appropriée à ce genre de choses. Je ne dirais pas très démocratique, mais enfin il y a beaucoup d'associations qui passent par elle, la plateforme Ulule. Donc à partir du 6 février, pourquoi le 6 février? Parce que c'est la journée internationale, mondiale de lutte contre l'excision justement. À partir du 6 février et jusqu'au 8 mars, journée internationale de lutte des femmes, nous allons donc lancer cette souscription financière et cet appel à dons. Donc si vous voulez, vous pouvez par l'intermédiaire de notre adresse, on va vous la donner votre adresse mail Et puis, quand on le 6 février, quand on lancera l'opération, on vous enverra un document qui vous permettra de donner un petit don. 10, 15 euros, ça suffit, parce que, bon, les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Mais si tout le monde donne 10, 15 euros, nous arriverons très certainement à lever la somme à la fois pour tourner le deuxième Kimbi Dalé, donc Kimbi Dalé 2, on ne sait pas comment il va s'appeler, et puis aussi à aider les jeunes filles, en particulier celles qui sont dans un pensionnat, pour devenir infirmières, parce qu'elles n'ont effectivement pas beaucoup d'argent. La quasi-totalité de leur argent passe pour acheter des livres, des fournitures scolaires, et elles ont très très peu d'argent pour se nourrir et se vêtir.
Moi, si je peux dire deux mots, parce que j'ai vu le documentaire donc, que vous avez passé, qui s'appelle donc Kimbalé, de ce film.
Kimbi Dalé, pardon.
De ce film qui est sorti en 2015. Et je connais le problème de l'excision, mais vraiment, j'ai été très, très émue. Et ce qui est vraiment magnifique, c'est de voir les résultats. Quand je pense à toutes les personnes qui disent « mais on ne peut pas changer une tradition qui dure depuis 27 siècles dans ces villages. » Et en fait, tout a changé. C'est-à-dire que dans les 7 villages avoisinants, si j'ai bien compris, les petites filles ne sont plus excisées. Donc c'est incroyable ce courage, l'audace qu'elles ont eu. D'abord, c'est parti des habitantes là-bas, quoi, sur place, de deux femmes tellement courageuses qui risquaient beaucoup, qui étaient bannies, etc. Et puis elles ont fait appel à Femmes Solidaires, et de voir les résultats, c'est magnifique. Et voilà, c'est ça qui m'a énormément frappée. Et puis après, du coup, je trouve ça c'est un résultat magnifique, comme quoi on peut tout changer si on lutte, quoi, on n'est pas seul à lutter, parce qu'elles avaient besoin d'un soutien. Elle le disait, on avait besoin d'avoir un soutien derrière nous, donc une ONG internationale derrière nous. Et ensuite, elles ont eu des idées et c'est parti tout petit. Et c'est vraiment frappant, quoi. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est de voir les jeunes filles. On voyait l'exemple d'une jeune fille, c'était en 2015, qui était mariée. Elle avait 15 ans. Donc là-bas, d'après ce que j'ai compris, encore aujourd'hui, se marie à 12, 13 ans. Pour eux, bon, c'est normal, faire plein d'enfants, etc. Ensuite, au fur et à mesure, elle lutte. Donc cette jeune fille de 15 ans qui disait encore, même en 2015, que c'était pas facile forcément pour elle, elle n'avait pas tant d'amis, elle était critiquée. Donc la preuve que voilà, ça se fait pas, c'est pas aussi facile, mais malgré tout, elle était sûre que sa fille ne serait plus excisée, que ses amis à qui elle avait parlé n'exciseront plus leur fille. Voilà. Et c'est incroyable comme tout peut changer, quoi. Et puis au fur et à mesure, leur demande d'autonomie, effectivement, ensuite elles veulent plus être mariées précocement. Enfin voilà, tout va partir d'un moment où on touche à ça, on peut bouleverser leur vie complètement.
C'est sûr qu'elles ont gagné en autonomie, en émancipation, et que ces jeunes filles, maintenant, je veux dire, revenir en arrière, pour elles, ce n'est plus possible.
Voilà,
je pense qu'il y en a une, c'est très émouvant. Oui. Elle veut être ingénieure des ponts et chaussées. Elle veut construire des routes, parce que le pays Afar est un pays qui est complètement isolé en Éthiopie. Et justement, elle veut construire des routes et des ponts pour que sa région ne soit plus isolée des autres. Mmh. Je trouve que là, on a vraiment marqué des points. Et bien c'est sûr. Ça aussi, l'universalisme des droits des femmes.
Exactement. Comme on pense, c'est vraiment quand on pense qu'il y a des courants qui veulent remettre en cause cet universalisme, c'est la force qui, sans l'universalisme, on peut rien faire, on peut pas, voilà, cela ne serait pas possible, alors qu'on est toutes concernées évidemment par cela et par voilà. Ce qui m'a frappé aussi au début du film, c'était le film commence par une ancienne exciseuse, donc qui sont toujours là, qui sont, comme tu l'as dit, devenues des accoucheuses, donc c'est magnifique ce changement. En fait, bien sûr, je pense qu'elles sont beaucoup plus heureuses aujourd'hui à accoucher qu'à exciser, mais c'est vraiment frappant de voir toutes leurs témoignages. Elles ont beaucoup souffert, elles savent qu'elles ont beaucoup souffert, et comment dire, elles racontent comment certaines exciseuses ont vu des petites filles mourir, quoi, et se sont dit bon, ça va pas. Mais beaucoup de petites filles sont mortes ou ont souffert ou souffrent encore, parce que ce film dénonce ça. Après l'excision, La nuit de noces, c'est terrible. Accoucher, c'est dangereux, etc. Donc, c'est des choses incroyables. Enfin, en tout cas, le début du film commence. Elle décrit comment c'est l'excision, le fait qu'elle elle enlève tout et qu'elle recoud tout. Et il ne reste plus qu'un tout petit orifice suintant. Elle applique des pommades, des herbes pour espérer que ça va, tout va bien se passer. Mais évidemment, ça ne se passe pas si bien. Et beaucoup de les deux femmes enfin, qui ont commencé il y a 20 ans à se rebeller, elles sont rebellées. Parce qu'elles enfin, elles en pouvaient plus de cette souffrance qu'elles ont endurée. Quoi. Elles ont eu aussi des filles qui sont mortes et elles-mêmes, dans leur vie de femme, disaient que c'est enfin, on peut s'en douter ce que c'est que la vie d'une femme. Quoi. Et les idées qu'il y a derrière, enfin, moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment. Parce que la justification de ça, elle disait nos hommes, enfin, les hommes veulent ça pour leur plaisir. C'était la justification, mais ça me paraît incroyable. Quoi, enfin, déjà, bon, l'idée, c'est affreux de penser voilà, que la femme serait au service d'un homme. C'est, de toute façon, ça ne se justifie pas. Mais même, comment on peut avoir du plaisir à faire mal c'est incroyable. Enfin, ça, c'est
Bon. Alors, ce film documentaire, nous l'avons en notre propriété, puisque c'est un film Femmes solidaires. Et nous l'avons donc en notre propriété. On va vous donner notre adresse et nous sommes prêts à refaire des initiatives partout dans la région. C'est un beau film d'éducation populaire, ouais. C'est un beau film d'universalisme.
Et puis l'histoire continue, puisque voilà, puis en fait, voilà. Il va y avoir sans doute un deuxième film sur la suite du projet, voilà. En fait. Et
moi, je voudrais juste rajouter tout ce qui s'est passé là-bas en territoire Afar, en Éthiopie, c'est la preuve que nous avons amplement raison de nous battre sur le côté universaliste,
oui, bien
des
sûr.
Droits des femmes. Ouais. Contrairement à ceux qui disent qu'il faut respecter les coutumes et que derrière les coutumes, on ne peut rien faire.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Rien ne peut justifier, on ne peut pas relativiser par les cultures, par les religions.
On va vous donner notre adresse quand même. Femmes solidaires, Cité des associations, 93 La Canebière, 13-0, boîte postale 17, 13-001, Marseille.
Voilà, et vous avez peut-être un site Facebook aussi, je crois, non ?
On a un site Facebook, oui. Alors, okay. Deux sites, dont un qui est mis à jour régulièrement. C'est celui-là qu'il faut utiliser et on répond aux questions. Voilà.
Et il est alimenté chaque jour par nos luttes et puis nos interrogations et puis ce qu'on pense de la vie des femmes et des droits des femmes.
Mm-hmm. Et puis j'imagine que les bénévoles sont bienvenus dans votre
Sûr, nous faisons appel aux bénévoles.
Voilà, d'accord. Ok, bon ben je vous remercie. Faut qu'on rende l'antenne, donc.
Merci Nadia de nous avoir invités. Merci beaucoup.
Voilà et merci aux auditeurs et à dans 15 jours.